Alors, si vous voulez, on va continuer notre étude sur la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui est la confession de foi auquel on adhère comme groupe. À un moment donné, il y a eu une décision que cette Église-là, la Confession de foi, si on veut dire à quelqu'un, si quelqu'un veut nous dire « Qu'est-ce que vous croyez, vous autres, chez vous, comme groupe? » Ben, tu peux y donner le 1689. Puis c'est ça qui exprime comment on voit Dieu, comment on voit qui on est, le péché, etc. Alors, c'est très important de bien la connaître. Moi, je peux vous dire une chose. C'est que quand on pense qu'à cause qu'on l'a lu une fois, qu'on l'a compris, je pense que vous faites une erreur. Parce que c'est, des fois, il y a des chapitres, quand vous les lisez, il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais des fois, on est paresseux un petit peu, on ne va pas nécessairement voir c'est quoi le sens de tel mot. Et des fois, il y a tellement de versets, parce que quand vous regardez votre confession de foi, à côté du libellé, les phrases, vous avez des petits numéros. Là. Et des fois, je ferai un chapitre, vois-tu, comme celui de ce matin, là, il y en a, ça commence à 17, puis ça finit à 26. Et je suis certain qu'il ne donne pas tout. Il fait juste prendre chaque phrase qui est dite. Autrement dit, il démontre que ça, ce n'est pas basé sur une décision humaine ou une évaluation humaine. C'est basé sur la parole du Seigneur. Alors là, ce matin, ce qu'on voit, on va terminer ce qu'on avait commencé la semaine dernière, le deuxième paragraphe du chapitre 2. Et il y en a trois. L'autre leçon, on va commencer la Trinité. Alors, dans le chapitre 2, il y a trois affaires. Alors, il y a le paragraphe 1, c'était le Dieu, le seul Dieu vrai et vivant. On a pris une leçon pour ça. Là, on fait le paragraphe 2, qui est la souveraineté toute suffisante de Dieu. Ça, c'est une autre leçon, puis on l'a fait en deux. Ça fait déjà notre deuxième sermon qu'on fait là-dessus. Et la prochaine, on va terminer le paragraphe 3 du chapitre 2. Ça va pas vite, hein? Mais, comme je l'ai dit, j'aime mieux aller plus lentement puis comprendre ce qu'on fait que d'aller trop vite puis qu'à fin de compte, quand on a fini, on n'a rien compris. On pense qu'on a... OK, on a tout vu ça. On est savant. La meilleure façon de savoir si quelqu'un est savant, quand il dit « Oh, moi, la 1689, je la comprends », ben tu dis « OK, viens ici en avant. » Puis moi, je vais te poser des questions. On va voir si tu comprends si bien que ça. Alors, on voit que, dans le fond, c'est de travail... Comprendre le 1689, là, puis bien l'expliquer, puis d'être capable de l'expliquer aux autres, là, ça demande beaucoup de temps. Alors, si on pense qu'on comprend, on lit ça une fois, puis on a tout compris, là, pas sûr que tu as tout compris. OK. Fait que le paragraphe 2 du chapitre 2, on pourrait résumer qu'est-ce que le chapitre enseigne avec la division suivante. C'est comme si on aurait fait un petit plan, là. Alors, c'est les relations de Dieu envers ses créatures. Et on pourrait diviser ça en cinq sous-points. Là. Son indépendance toute suffisante d'eux. Autrement dit, Dieu, avant de créer l'homme, avant de créer les êtres humains sur la terre, était dans le ciel parfaitement heureux avec les trois personnes de la Trinité et il n'avait pas besoin du tout de créer qui que ce soit. Alors, quand on dit son indépendance toute suffisante d'eux, Dieu était capable. Et l'autre, le deuxième point, c'est sa domination souveraine sur eux. Ça prend des années avant de comprendre ça. Je peux vous le dire, moi, ça m'a pris des années, en tout cas. Avant de comprendre que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Il l'a décrété de toute éternité, tout ce qui était pour se dérouler dans le temps et dans l'espace. Alors, tout ce qui arrive dans nos vies... Il faut se dire que Dieu l'a décrété de toute éternité. Ça aide beaucoup à avoir du contentement. Mais la preuve qu'on n'a pas compris, c'est qu'on chiale encore. Quand on chiale, on est en train de dire, « Dieu, ce que tu m'envoies, moi, c'est pas ça que j'ai vraiment besoin. » On est en train de remettre en question sa sagesse, son intelligence. La troisième point, c'est sa connaissance absolue d'eux. Autrement dit, quand on dit que Dieu nous connaît, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. Je ne sais pas comment on est rendu sur la Terre, 7 milliards, chose comme ça, 7 ou 8 milliards, en tout cas, c'est dans ces alentours-là. 1 milliard, c'est 1 000 millions. 6 milliards, ça fait 6 000 millions. Et quand Dieu dit qu'il te connaît à la perfection, Imaginez-vous, moi, ça fait des années, des fois qu'on se connaît, on est mariés, on pense qu'on connaît notre femme, ou la femme, elle pense qu'elle connaît son mari. Mais on se connaît pas tant que ça. Si je demandais à quelqu'un, qu'est-ce que tu faisais le 12 décembre 1989, si tu étais au monde, ou tu étais, puisque tu faisais à 10 heures? Là, vous seriez bien embêté de répondre à ça. Hein? Ben, je ne sais pas, moi, ce que j'étais. Je m'en souviens pas. Mais Dieu, quand il dit qu'il connaît tout le monde, il connaît chaque individu à la perfection, mais toutes les 8 milliards simultanément. Imaginez-vous l'intelligence que ça prend pour être capable de faire une chose semblable. Il n'y a pas un d'entre nous que le Seigneur ne peut pas dire quelle date, n'importe quelle date de votre vie, depuis votre naissance, et même avant, même dans le ventre de votre mère. Il vous connaissait à la perfection et il sait la date que vous allez mourir. C'est lui-même qui l'a décrété. Ça fait drôle de penser à ça. Des fois, je prends des images dessus. C'est drôle, hein? Moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Peut-être que ça va être aujourd'hui. Peut-être que ça va être demain. Peut-être que ça va être dans un an. Peut-être que ça va être dans 10 ans. Peut-être que ça va être dans 15 ans. Je ne le sais pas. Mais Dieu, lui... Je ne lui demanderai pas parce que je m'entends qu'il ne me réponde pas. Je ne veux pas le savoir parce que si je le savais, disons, je disais à Dieu, quelle date que je vais mourir? Puis là, il me dirait, tu vas mourir dans 3 ans, telle date, telle heure. Pensez-vous que je serai capable de travailler pendant 3 ans? Je ne serai pas capable de travailler? C'est pas quelque chose que nous, l'être humain, on est capable de vivre avec ça, de savoir l'avenir. Mais Dieu nous connaît à la perfection. Et l'autre chose qu'on avait à regarder, le quatrième point, quand on regarde les relations de Dieu envers ses créatures, c'est son absolue sainteté devant eux, devant nous. La sainteté, on le sait que c'est la séparation de tout mal. Mais Dieu, aucun être humain ne peut être saint au point d'être séparé de tout mal. On le sait à tous les jours, on a des péchés dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos omissions. On peut se séparer du mal parce que Dieu nous dit que sanctifiez-vous car je suis saint. Il veut qu'on progresse dans la sanctification. Pour les chrétiens, la sanctification, c'est quelque chose de progressif. Il se fait tranquillement, un petit peu tous les jours. Et donc, sa sainteté absolue de Dieu, ça veut dire que non seulement lui, il n'a jamais pensé du mal, il n'a jamais dit du mal, il n'a jamais fait du mal, d'aucune sorte que ce soit. Mais plus que ça, quand il dit qu'il est séparé de nous d'une telle façon que ça ne peut pas... Disons qu'on arriverait à savoir c'est qui le plus grand saint qui a vécu sur la terre. Disons qu'on arriverait à trouver un nom. Ah, ben c'est lui ou elle. Ben là, la sainteté de Dieu, si tu compares ça à un être humain, ça ne se compare pas. Quand Dieu dit... Je suis saint, il est tellement saint qu'il ne peut pas se comparer même avec le plus grand des saints des hommes. C'est exceptionnel, c'est alone, comme on dit. Et le cinquième point, c'est ses droits et revendications intrinsèques sur nous. Autrement dit, Dieu a tous les droits et il peut revendiquer n'importe quoi sur nous. C'est lui le grand patron, il a tous les droits, il nous demande plein de choses. Et nous, on ne peut pas dire, ben là, tu ne peux pas me demander ça. Il peut te demander ce qu'il veut. Il a tous les droits sur toi. Alors, on va le relire, le chapitre 2, et on va reviser un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, et on devrait terminer cette semaine. Mais c'est pour dire qu'une petite phrase n'est pas tellement longue. Quand tu regardes le chapitre 2, il n'est pas tellement long. Mais le stock qu'il y a là-dedans. Oh là là! Si vous comprenez tout ça, là, vous êtes un grand théologien. Une grande théologienne. Ça dit... Au chapitre 2, le paragraphe 2, ceux qui ont des copies, vous pouvez suivre. Possédant toute vie, parle de Dieu, toute gloire, toute bonté et bonheur en lui-même et de lui-même. Seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même sans avoir besoin d'aucune créature qui l'a fait. Intéressant. Il ne dérive aucune gloire d'elle. Autrement dit, Dieu ne dérive aucune gloire à cause de nous. À cause d'elle, je prends mon doigt. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, par et à et sur elle. Juste cette petite phrase-là, regardez ce que ça dit plusieurs choses. mais d'elle, mais seulement manifeste sa gloire. Autrement dit, Dieu rend l'ensemble de ce qu'il est manifeste, ça veut dire visible. Et il le fait par nous. Il montre sa bonté par nous. Il montre chacun des attributs que Dieu fait, l'être humain est capable de le refléter jusqu'à un certain point. Il dit, il manifeste sa gloire en nous, par nous, à nous et sur nous. Et ça a l'air très petit comme phrase, hein, mais si vous vous mettez à arrêter à ce que ça veut dire, vous allez voir, vous avez du stock. Là. Alors, quand on lit la 1689 comme ça, si on la lit, puis on ne va pas voir les petits numéros, là, on manque le bateau. Parce que on faut se rendre compte que la 1689, ce n'est pas l'expression de décision de pasteur. C'est des personnes qui ont beaucoup réfléchi à quelque chose. Cette semaine, c'est la souveraineté de Dieu. Et qui sont allés chercher des versets dans les Écritures, qui se sont entendus pour être capables de dire c'est quoi la souveraineté de Dieu. Ils ont étudié ça, ils se sont mis en groupe, ils se sont critiqués les uns les autres et en sont arrivés à dire une phrase qui exprime très bien ce qu'ils veulent dire. Après ça, on continue. « Il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elle, pour elle et sur elle tout ce qui lui plaît. » Aussi, là, juste une phrase de même, on pourrait en avoir des semaines à prêcher. Après ça, tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Comment vous iriez vous cacher d'un mille en dessous de la terre pour faire vos affaires? Dieu, il n'y a personne qui me voit. Ben, je regrette, mais il est là, puis il doit. Alors, éclair devant ses yeux. Sa connaissance est... Et regardez bien les mots qu'il utilise, les adjectifs qu'il utilise. Sa connaissance est infinie. Infaillible. Il ne peut pas se tromper. Indépendant de la créature. De sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Il sait tout ce qui va arriver. Il sait depuis le début jusqu'à la fin. Et il ne pourra pas dire dans la vie de quelqu'un... « Oui, mais dans 3 semaines, tu vas être où, toi? » Dieu ne posera pas question. « Dans 3 semaines, elle va être où, elle? » Il sait ce que tu vas être. C'est lui qui a décrété chacune des circonstances de toute ta vie au complet. Après ça, dans tous ses desseins, je vais vous expliquer c'est quoi le mot « dessein », parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit « C'est quoi, ça, un dessein? » Un dessein, c'est une intention. Dessein, D-E-S-S-E-I-N-S, pas un dessein comme quand tu fais un petit dessin sur un papier. Dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur créateur. Si vous prenez la ville de Mégantic ce matin, on va prendre Mégantic, mais on va prendre Nantes. Ça dit, les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature. Comment ça se fait que ce matin, dans les églises, il y a peut-être, disons, 200, si on regarde, il y a 3 églises à Mégantic, peut-être, disons 300. 300 personnes qui sont en adoration ce matin sur une population de adultes, peut-être 3000, 4000. 300 sur 4000. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne font pas leur devoir envers Dieu. Mais Dieu a le droit de te l'exiger. Il te l'exige aussi. Et tous ceux qui ne sont pas au culte ce matin sans une bonne raison sont dans le péché. Parce que Dieu veut que tu sois avec adoré. Le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur créateur et tout ce qu'il lui plaît d'exiger d'eux en plus. Où est-ce qu'on voit ce que Dieu peut exiger de nous en plus de venir au culte le dimanche matin? Mais on a ça ici, là. It's a big book, comme on dit en anglais. Ça fait près de 40 ans que je suis chrétien. J'ai appris beaucoup de choses depuis le début de ma vie chrétienne. Mais il y a une chose que je suis de plus en plus conscient. Plus j'étudie, plus je me rends compte que le savoir que j'ai par rapport à ce que je dois connaître de lui, c'est rien. Tellement Dieu est grand, on n'a pas d'idée. Plus on étudie la doctrine de Dieu, plus on se rend compte qu'il est tellement grand, il est tellement glorieux, il est tellement parfait dans tous ses aspects et de façon infinie. On parle plus de choses ordinaires, là. Infiniment bon. Quand on dit infiniment, il est tellement bon, mais c'est infini. Tu vas découvrir sa bonté, ça fait 1000 ans que tu découvres sa bonté. Penses-tu que tu as atteint le bout? Tu vas l'étudier pendant un autre 10 000 ans, penses-tu que tu vas atteindre le bout? Tu n'atteindras jamais le bout d'aucun de ses attributs. Alors Dieu est d'une grandeur, il faut revenir continuellement avec ça. C'est pour ça qu'éventuellement, il me reste 2 ou 3 petites séries à faire, là. Mais attendez-vous que alentour de l'automne, on va commencer notre série sur Dieu, que je vous ai dit, « The Doctrine of God ». Au moins 100 sermons, minimum, ça va être la toile de fond. Et après, on va faire « The Doctrine of Man ». Quand on va avoir mis le grand tableau, puis qu'on va se voir tel qu'on est, on se dit, oui, lui est grand, mais moi, je suis titi, il est très fragile. Alors, on avait vu qu'il y a plein de versets. Alors, les versets, sur les leçons, ceux qui impriment leurs leçons, non seulement j'ai imprimé le texte, mais j'ai mis les versets, du moins le nom du verset. Vous pouvez aller dans votre Bible, vous pouvez les lire. Ça, si vous voulez les avoir, j'en ai quelques copies avec moi. Mais si jamais vous les voulez, ils sont tous sur Internet, vous pouvez les downloader. Vous pouvez les écouter, ce qu'on dit ce matin, c'est enregistré en MP3. Mais vous pouvez aussi télécharger les leçons. C'est pas tout ce que je dis, mais c'est des notes de sermon. Dans les notes, il y a suffisamment pour que vous puissiez suivre ce qu'on est en train de dire. Alors, le premier point qu'on avait regardé, on va réviser rapidement pour se rendre jusqu'où on était rendu. Le premier point, c'était son indépendance toute suffisante d'eux. Ça disait qu'il possédait toute vie, qu'il possédait toute gloire, qu'il possédait toute bonté, qu'il possédait tout bonheur en lui-même et de lui-même. Le bonheur de Dieu ne vient pas de ses créatures. Il est en lui-même et par lui-même et de lui-même parfaitement heureux. Et il est suffisant à lui-même. Autrement dit, il n'a pas besoin des êtres humains. Il ne nous a pas créés parce que un moment donné, il était dans le ciel. Bon, d'où c'est plate. Il faudrait bien faire quelque chose. Puis que non, ça ne marche pas de même. Il n'avait pas besoin de nous. Il nous a créés. On verra, on développera tout ça en théologie un peu plus tard. Après ça, on a vu son deuxième point, sa domination souveraine sur eux. On va prendre, je ne sais pas s'il y en a qui aiment le livre de Daniel. Le livre de Daniel, c'est un livre où le Seigneur nous montre sa souveraineté absolue. Le roi le plus puissant de l'époque, qui s'appelait Nebuchadnezzar, il était, je dirais qu'il était encore plus puissant que le président des États-Unis actuellement. À son époque, parce que c'était gros, là. Babylone, c'était énorme, là. À un moment donné, la tête, il a enflé un petit peu. Il pensait que tout ça, là, c'est lui qui avait construit ça. À un moment donné, le Seigneur, il a dit, « Je vais te le montrer, moi, c'est qui est le patron. » Il dit, « Tant que tu ne reconnaîtras pas, il l'a envoyé 7 ans manger de l'herbe dans le champ. » Daniel, c'est un livre extraordinaire pour comprendre comment Dieu est puissant. Capable de prendre l'homme le plus puissant de la planète, puis capable d'en faire quasiment un animal qui va aller manger dans le champ. Du jour au lendemain, comme ça, clac. Alors, Dieu est d'une puissance et d'une domination extraordinaire. Alors, de Daniel 4, je vous le recommande, Daniel chapitre 4, versets 20 à 25, 33 à 36, c'est une belle histoire à écouter. Et dans les Écritures, il nous dit, « Notre Dieu, il est dans les cieux, il fait tout ce qu'il lui plaît. » Il y aurait plein de choses à dire. Et on avait vu aussi que le troisième point, sa connaissance d'eux, la connaissance des hommes, de nous, elle est parfaite. Y a-t-il quelqu'un qui vous connaît parfaitement? Des fois, on vient un temps qu'on connaît bien quelqu'un, disons, comme quand ça fait 25-30 ans que tu vis avec la même femme, ou que là, tu dis, oh, lui, je le connais! Mais on le connaît-tu tant que ça? On le connaît pas tant que ça. Il y a plein de choses de son passé qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses de ce qu'il vit intérieurement que tu ne sais pas. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. C'est vrai qu'il y a plein de choses que tu sais aussi. C'est ses défauts, souvent, plus que ses qualités, souvent. Alors, sa connaissance de chacun d'entre nous, elle est infinie, infaillible, indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. infini, aucune limite, aucune restriction. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment peut-on ne pas être en extase devant la personne de Dieu quand on dit qu'il connaît parfaitement 8 milliards d'individus simultanément? À partir du moment où ils ont été conçus, au moment où ils vont décéder. 8 milliards! Allez, je me souviens quand je suis arrivé à l'église ici, on est quoi, une trentaine? Je pense que ça m'a pris 2 mois avant juste de retourner au nom. Alors, on voit comment on n'est pas, on tient pas de choses. Mais Dieu, lui, c'est pas seulement ton nom, il sait toutes choses qui te concernent. Elle est infaillible, sa connaissance est infaillible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper quand il dit qu'il te connaît. Et elle est aussi, pour Dieu, rien n'est contingent ou incertain. Ça veut dire quelque chose qui est contingent, c'est quelque chose qui peut se produire ou non, ou qui est soumis au hasard. Alors, on va développer plus tard, dans il y a un chapitre qui parle du décret de Dieu. On va développer un peu ces notions-là de contingence et de... mais là, on ne rentrera pas là-dedans ce matin. Et on était rendu là, la dernière fois. Le quatrième point, c'est sa sainteté absolue devant Dieu. Donc, Dieu est saint devant nous, mais d'une manière extraordinaire. Alors, dans le petit bout qu'on sort du paragraphe, là, ça dit « dans tous ses desseins, autrement dit, dans toutes ses intentions, dans toutes ses œuvres, il a fait beaucoup de choses, le Seigneur. » Quand on s'arrête là, à regarder tout ce qu'il a fait, là, les fleurs, les étoiles, les forêts, on est extraordinaire. Dans toutes ses œuvres, Dieu dit que sa sainteté s'est manifestée. Dans tous ses commandements, la parole dit que le décalogue est juste, bon et saint. Le décalogue, ça exprime la sainteté de Dieu, ça exprime la volonté, ce qu'il veut de chacun d'entre nous. Et, mais quand on se met à lire le décalogue, aller dans Exode 20, là, ou dans Deutéronome 5, où les décalogues de Dieu est décrit, là, regardez ce que Dieu dit, ce qu'il exige de chacun d'entre nous. Et plus on comprend ce que c'est le décalogue, plus on comprend que c'est une grâce énorme qu'on a reçue de la part de Dieu, de Jésus qui a voulu... qui a accepté de subir le châtiment qui aurait dû être le nôtre, comme on a dit tantôt, et qui a accepté aussi d'accomplir à notre place. Il le fait comme notre représentant, le second Adam. Et quand on croit, on sait que non seulement la punition est payée, mais on sait aussi qu'on a, aux yeux de Dieu, c'est comme si chacun d'entre nous, qui est un véritable croyant, Dieu nous voit comme si on avait accompli à la perfection la loi. Imaginez-vous, moi je m'imagine, je sais comment j'en ai fait des gaffes dans ma vie, j'en ai fait plus que ma part, comme on dirait. Et là, Dieu, aujourd'hui, il me voit comme si j'avais jamais pas péché, d'aucune façon. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas péché, parce qu'en croyant en Jésus-Christ, la justice de Christ m'est imputée, qui veut dire, elle m'est donnée, elle est mise sous mon compte. C'est comme si j'avais un compte avec Dieu, puis Dieu dit... Lui, là, je le considère juste, pas à cause qu'il est juste en lui-même et par lui-même, mais à cause que Christ a fait à sa place que ce que moi j'exigeais de lui. C'est assez extraordinaire le salut. Plus on approfondit ça, plus on est... Et dans le psaume 145, au verset 17, ça dit, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et plein de bonté dans toutes ses œuvres. » Il y aurait de quoi réfléchir longtemps, là, juste sur ce petit passage-là. Alors, dans sa domination souveraine, ça veut dire... Je me souviens, une fois, j'étais allé à Knoxville dans le temps, puis je prêchais sa souveraineté de Dieu, puis quelqu'un qui vient me voir après, puis il dit, « C'est quoi, ça, la souveraineté? » La souveraineté, ça veut dire que c'est Dieu qui est le grand maître de toutes choses. Souveraineté, ça veut dire qu'il est le roi. Il règne de façon absolue sur toute sa création. Ange, planète... comme ils disent en anglais, « name it », il est le grand patron de ça. Alors, dans sa domination souveraine, le Seigneur est très saint dans toutes ses voies, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements. Cinquième et dernier point, ses droits et revendications intrinsèques sur eux. Autrement dit, il est en train de parler dans le dernier point qu'à cause du fait qu'il est le roi, il a le droit de nous imposer tout ce qu'il veut. Parce que c'est lui le maître. Quand on travaille dans une manufacture, là, puis que le boss vient nous voir, puis il dit « fais ci, fais ça », on le fait, hein? Mais Dieu ses exigences. Le boss, lui, souvent, c'est rien que deux, trois, deux paroles. Prends la palette, puis tasse la place. Mais Dieu, hey, c'est gros, là. Étudier ce livre-là, là, c'est le travail de toute une vie. Puis même au bout d'une vie, il te reste encore des affaires à découvrir. Alors, Dieu veut beaucoup de choses de chacun d'entre nous. Alors, ça dit, dans la dernière section de phrase qu'on a regardée dans le paragraphe 2, les anges et les hommes sont tenus. Tenus, ça veut dire quoi? Sont obligés. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur créateur. On se doit d'adorer Dieu parce qu'on est ses créatures, il est le créateur et on lui doit l'adoration. Si on ne le fait pas, aujourd'hui, on est dans l'obéissance, là. On est en train d'obéir à ce que Dieu veut qu'on fasse le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est un jour qui lui est consacré. Ça le dit, le jour du Seigneur, ça lui appartient. Tout ce qu'on fait dans le jour du Seigneur, ça devrait être quelque chose qui le magnifie, qui l'exalte, pour nous faire découvrir. Toute la journée du dimanche devrait être une journée. C'est la journée du Seigneur. On se devrait de lui réserver toute cette journée-là. Alors, comme créature à leur créateur et tout ce qu'il lui plaît d'exiger d'eux en plus. C'est autrement dit, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Et plus, parce que s'il veut t'exiger quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, peux-tu le faire? Ben oui, c'est lui le patron. Alors Dieu a la domination souveraine sur toutes ses créatures. Les anges, bons. Les anges, mauvais. Il peut commander aux anges bons. La preuve, il nous dit que nous, on a des anges, il les envoie. C'est des serviteurs, des flammes. Pourquoi il utilise le mot flamme de feu? C'est parce que quand Dieu commande à un ange, là, c'est pas, ben laisse-moi y penser, puis je vais revenir. Là. C'est immédiat, c'est une obéissance. Mais Dieu nous demande la même chose, nous. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas si rapide que les anges, nous autres, à cause du fait qu'on est pécheur? Alors, et sur les anges bons et mauvais, et ces créatures-là, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, ont des devoirs envers Dieu. L'adoration, mais est-ce que c'est tout? Le service. Dieu nous demande de le servir de différentes façons. Il y a mille façons de servir le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas à chaque individu qui sont dans des églises de servir de la même façon. Mais il nous demande tous de servir d'une manière ou d'une autre, parce que chaque façon de servir amène du bien à la communauté. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il nous a donné des dons spirituels, et le don spirituel qu'il nous a donné, c'est pour l'exercer dans l'assemblée. Si Dieu te donne un don spirituel et que tu n'aies pas tes cultes dimanche, qu'est-ce que ça fait? Ça prive l'assemblée du don que Dieu t'a donné, que les autres ne reçoivent pas parce que t'es pas là. Pas plus compliqué que ça. Alors, l'adoration, le service, et est-ce qu'il nous demande juste ça? L'obéissance. Dieu nous demande, il veut qu'on obéisse à tout ce qui est écrit là-dedans. Et ça, là, ça prend du temps à te comprendre tout ce que Dieu veut de nous. Ça prend du temps de comprendre aussi que les événements qu'il compte. On vient de faire une série là, sur ceux qui étaient ici le mercredi sur la Providence. La Providence, c'est tout simplement les événements que Dieu a décidé de toute éternité qui concernaient ta vie de tous les jours, ta vie en général. Quand il y a des affaires qui nous arrivent, qu'on trouve ça douloureux, vous remarquez qu'on est porté à dire, mais là, moi, j'ai pas besoin de ça. Mais oui, tu as besoin de ça. Parce que si Dieu permet que ça t'arrive dans ta vie, c'est lui qui l'a décrété, donc c'est lui qui a décidé que tu avais besoin de ça. Mais nous, on chiale tout le temps. Peu importe ce qui nous arrive. Ah oh ben là, matin, il pleut. La température que Dieu nous envoie, c'est lui qui a décidé qu'aujourd'hui pleuvait. Si on se lève et on chiale, là, dans le fond, on est en train, on ne le dit pas comme ça, là. On est en train de dire à Dieu comment il devrait faire. L'hiver, c'est pareil. Je suis pas bien chialé des fois quand il y a de la neige, puis tu vois ça dehors, ça, des pelletés. Oh, t'as l'air, moi, les doigts de pelleter ça, c'est pas drôle. Mais il faut que tu dises une chose, c'est que la neige tombe parce que Dieu a décidé qu'elle tombait. Puis la quantité qu'il a décidé d'envoyer, c'est lui qui l'a décidé. Alors on devrait sortir toujours avec joie. Aller pelleter notre char avec joie. Déneiger notre char avec joie. On devrait tout faire avec joie. Mais vous remarquez que c'est pas ça qui se passe. On chiale tout le temps. Mais pensez-vous que c'est correct, ça, qu'on chiale tout le temps? Non, c'est pas correct. Faut demander à Dieu la capacité, de nous donner la capacité de voir tout ce qu'il nous envoie avec nos lunettes spirituelles, nos lunettes bibliques. Il arrive une affaire qui ne fait pas tant d'affaires, au lieu de chialer, il dit, « Ah, peut-être que Dieu a quelque chose à me montrer à travers ça. » Il y a des fois, des affaires, c'est douloureux, là. Il y a des événements, il en arrive toutes les sortes dans la vie. Alors, c'est de s'habituer à voir la main de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Parce que c'est ça l'enseignement biblique. La main de Dieu est dans tout ce qui t'arrive. Alors, on ne devrait jamais chialer. On devrait toujours être en action de grâce parce que Dieu dit que ce qu'il t'envoie, c'est toujours plein de sagesse et d'amour. Même si nous, on ne voit pas. C'est un peu comme un enfant. Quand on a des enfants qui sont jeunes, hein, on fait des affaires que des fois, ça y fait pleurer, une petite tape. Mais elle est nécessaire, la tape, parce que si sans ça, l'enfant, il aurait pris des mauvais prix. Mais Dieu permet la même chose dans nos vies. Il nous corrige. Et c'est quand il nous corrige, on se doit de dire, « Merci, Seigneur, j'étais en train de m'égarer. J'étais en train de faire des choses qui te déplaisent. » Mais Dieu, il nous éduque. Toute la gang. Pourquoi il nous éduque? Parce qu'il nous aime. Nos enfants, pourquoi on les a éduqués? Parce qu'on les aimait, hein? Tu ne laisses pas un enfant faire tout ce qu'il veut parce qu'il va devenir un méchant monstre. Et misère. Laisse un enfant faire tout ce qu'il veut. Tu vas voir qu'il va devenir un méchant monstre. Il va te grimper sur la tête. Il va devenir un vrai petit diable, comme on dit. C'est à peine exagéré. Là. Il faut un contrôle parental et il faut qu'il soit encadré par les Écritures. Non pas par notre pensée, mais par les Écritures. Alors, c'est important de savoir toutes ces choses-là. Alors, comme dans tous les desseins, les œuvres et les commandements de Dieu sont saints, la créature ne devrait avoir aucune objection à obéir à leur créateur. Trois applications, on va terminer là-dessus après. Trois petites applications. Une application, c'est simple. C'est que quand on écoute un sermon, peu importe le sermon, ou quand tu lis quelque chose par rapport à Dieu, chaque chose que Dieu t'envoie, c'est toujours pour te montrer quelque chose, pour changer quelque chose en toi. Et si ça ne se produit pas, si aujourd'hui vous sortez d'ici et vous n'êtes pas meilleur que quand vous avez rentré, il y a quelque chose que vous avez manqué. On est censé qu'à chaque fois qu'on entend un sermon, de sortir plus grand que quand on est rentré. Sinon, c'est comme on dit souvent, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Quand on fait ça, c'est comme Dieu parle. On dit, « Hein? Qu'est-ce que tu dis? » Souvent, on fait ça. Hein? C'est vrai qu'on le fait. Alors, les trois applications sont les suivantes. La première, rappelons-nous constamment que le Seigneur est toute vie, toute bonté et tout bonheur en et de lui-même. Dieu n'a aucun besoin des créatures qu'il a fait. D'avoir voir sa grandeur. Il n'y a pas besoin de nous. C'est important de saisir ça. Deuxième point, Dieu domine souverainement la vie des individus et des nations. Quand on regarde l'histoire, ceux qui ont étudié des cours d'histoire, on l'a tout fait un petit peu jusqu'à un certain point, dépendamment de où on a étudié, qu'est-ce qu'on a étudié. L'histoire, c'était intéressant de savoir, d'étudier l'histoire des nations, la Rome, la Chine, le Canada. Mais il n'y a rien de ça que Dieu ne domine pas. Dieu dit dans les Écritures que c'est lui qui a déterminé les bornes, les frontières des nations. Alors, il y a des pays qui étaient grands, sont devenus petits. L'Égypte, quand vous lisez l'Égypte, disait de la Bible, c'était énorme. Aujourd'hui, j'en ai plus dit. Mais Dieu, c'est lui qui contrôle ça. Non seulement il contrôle la vie des individus, qui est nous, il contrôle la vie de l'Église locale, mais il contrôle aussi la vie des nations. C'est lui qui fait monter les dirigeants. Des fois, on voit les dirigeants Et on chiale contre les dirigeants. « Oh, il est comme ci, il est comme ça. » C'est vrai qu'on est le même. Hein? Mais qui a permis que tel dirigeant monte à la tête du pays? C'est Dieu. On devrait toujours faire attention aux mots qu'on utilise quand on parle des dirigeants. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, est correct. Mais ça veut dire que c'est Dieu qui dirige tout ce qui se passe sur la terre dans tous les pays. C'est intéressant de se souvenir de ces choses-là. Alors, il faut se souvenir qu'il peut accomplir tout ce qu'il veut avec chacune de ses créatures, avec chacune de ses églises locales et avec chacune des nations ou des pays. Hey, ça prend une grande intelligence pour être capable de faire ça. On est juste une petite église toute petite, mais le Seigneur, il y en a des milliers d'églises. Peut-être même des millions, je ne sais pas, j'ai le chiffre, je ne sais pas. Mais il est au courant de tout ce qui se passe dans toutes les églises, qui sont membres, qui assistent au culte, qui n'assistent pas. Il sait tout ce qui se passe partout dans les églises et dans les individus et dans les nations. Contrôle simultané de tout cela. Moi, je veux dire, eux, c'est une petite église, je veux en assez. Alors, lui, capable de 1 million d'églises, ça ne le dérange pas plus que ça serait une ou deux. Troisième point, le Seigneur a une connaissance infinie, parfaite et absolue de toutes ses créatures, et cette connaissance-là est infaillible et indépendante de la créature. Pour lui, rien n'est incertain. Il sait d'où tu viens, il sait où tu vas, puis il sait où tu vas aboutir, puis il sait même la journée de ta mort. Pas drôle de penser à ça, hein? Même toutes nos circonstances, la maladie, la perte d'emploi, tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu sait ce que tu vas passer par là. Parce que c'est lui qui l'a décrété que tu passeras par là. Quatrième, Dieu est infiniment saint dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres et dans tous ses commandements. Et cinquième et dernier, notre grand Dieu a tous les droits sur nous. Nous lui devons adoration, service, obéissance, dans tout ce qu'il doit, il peut nous commander. Tout est absolument saint et parfait dans ses exigences envers nous. Ne remettons jamais en question ses droits sur nous. Obéissons. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré à tout jamais. Amen.